Donc bonjour à chacun. Si vous aviez l'habitude de quelque chose, est-ce que vous voulez laisser cette case-là? On va faire autre chose que ce que vous avez l'habitude, ça va? Bon, il y en a, ils sont contents, d'autres, ils intériorisent, on va bien voir. J'étais touchée par les paroles de ce dernier chant sur l'agneau. Et je voudrais qu'on reste un peu dessus avant que j'aille plus loin. Donc, comme je le connais très très vaguement, c'est à vous là. Ça vous dirait de vous relever, qu'on puisse adorer l'agneau? Encore un instant.
Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous.
Seigneur, nous sommes devant toi. Et si nous sommes là, si nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est parce qu'il y a un prix qui a été payé. Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, est venu, a pris sur lui, à la croix, tout le péché de l'humanité, passé, présent, à venir. Pour nos neurones, c'est un peu compliqué, mais pour notre foi, nous savons qu'il l'a fait. Et s'il y en a qui ne l'ont pas fait ce matin, Dieu lui-même a accepté d'être le sacrifice afin que tous nos péchés ne soient plus un obstacle pour revenir à la maison du Père. Et nous adorons l'agneau. Nous adorons l'agneau, le sang qui a été versé. Le sang, dit la parole, c'est la vie. Sa vie a été donnée pour une humanité qui lui crache dessus, qui le méprise, qui ne croit pas en lui. Mais tu as aimé et tu nous aimes encore aujourd'hui. Alors c'est pour ça que nos mots sont faibles, pour te dire que nous t'adorons. Et on va reprendre encore une fois ce chant.
Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
Amen. Merci. Le sacrifice de Jésus, c'est un jour dans notre vie. Je ne sais pas si tout le monde connaît, a fait cette rencontre avec Jésus, mais il y a eu un jour dans notre vie où c'est devenu, ça faisait sens. Comme je le partageais hier, donc vous avez raté pas mal les épisodes d'hier, j'ai parlé de la louange prophétique, et qui, pour moi, la louange prophétique, c'est avoir comme but dans la louange Dieu et le laisser nous conduire, tout simplement. Pas être simplement dans les chants, sortir des cadres, mais lui laisser la chance de nous conduire là où il veut. Et on a pris comme exemple, il y a plusieurs exemples dans la parole de ce qu'on peut appeler de la louange prophétique, c'est pas un grand mot, mais enfin c'est celui qu'on a. Dans Apocalypse 5, on a regardé un petit moment d'un temps de louange, qu'on pourrait dire, qui se vit au-delà du voile, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et on a regardé qu'est-ce qui se passait devant le trône, justement, quand les 24 anciens et les 4 êtres vivants ont vu que l'agneau avait pris le livre et était digne d'en ouvrir les sceaux. C'est-à-dire que la question du salut était réglée. On pouvait être sauvé. On n'était plus séparé de Dieu à jamais. La condamnation était prise et on était justifié. Alors un jour, on a cru ça. C'est vrai ? Enfin, j'espère. Sinon, je vais changer 2-3 trucs dans mon message. Donc un jour, on a cru que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était venu sur terre parce qu'aucun être humain était capable de vivre une vie conforme et agréable au plan de Dieu. Alors Dieu est venu lui-même et il a fait le job et il est mort. Il était sans tâche, sans péché. Il s'est offert parce qu'il fallait un sacrifice. Pourquoi ? Quand on sera avec le Seigneur, je suis sûre qu'il y aura une longue file d'attente. Questions diverses. Pourquoi il fallait qu'un sang soit versé ? C'est questionnant. Moi, je suis quelqu'un dans ma foi qui me questionne beaucoup. Et il fallait. Et donc, ça a été accompli. Et parce qu'il y a le Fils de Dieu qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est mort. Alors aujourd'hui, nous pouvons tous revenir à la maison. Mais quand vous parlez de ça à quelqu'un qui ne croit pas, il ne comprend rien. La première fois qu'on vous a dit « tu as besoin de te repentir pour tes péchés », tu ne te trouvais pas si nul que ça. Enfin, peut-être certains parmi vous, ok. Mais la moyenne, on dit, bon, on ment pas plus que les autres, on n'est pas plus pourri que les autres, pourquoi moi ? Et après, quand on t'a dit maintenant, il faut te repentir, accepter le sacrifice que Jésus a fait pour toi, et confesser que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, et que maintenant, si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Vous avez fait ces 2-3 trucs comme ça ? Très bien. S'il y en a qui n'ont pas fait, c'est à vous. Et donc moi, comme je l'ai dit, j'étais dans l'Église réformée de France, et vous savez, il y a un protocole dans l'Église réformée de France, c'est que vous devez faire votre confirmation. Je n'avais pas très bien compris une confirmation de quoi d'ailleurs. Mais donc j'ai suivi très, très sérieusement les 3 ans, enfin très sérieusement. Très sérieusement pour quelqu'un entre 12 et 15 ans. Voilà, et j'avais un pasteur qui était authentique, il priait, je l'entendais prier pour les jeunes dans sa chambre pendant que nous, on se barrait dans le café d'à côté. Mais lui, il priait pour les jeunes, j'ai dit, waouh, quand même. Et j'avais une foi d'enfant, et un jour je suis allée le voir avant de faire ma confirmation, je ne sais pas très bien ce que c'était. Je dis, mais pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix pour moi ? C'est une bonne question ? Donc il m'a expliqué un truc. Et je suis repartie de là. J'ai rien compris. Hein. Et je crois qu'on a un temps où Dieu explique. Si simplement Dieu ne vient pas par son Saint-Esprit donner puissance à notre message, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui dites, tu avais besoin de Jésus, tu es pécheur, il est mort à la croix pour toi, pour que tu passes de la mort à la vie, que tu reviennes à la maison. Quand Dieu le fait, waouh! Quand c'est nous qui le faisons, Donc nous avons besoin absolument du Saint-Esprit. Et dans les temps qui viennent, on en aura encore plus besoin. Et c'est ce que j'expliquais hier, je suis à un moment de ma vie, c'est régulier, mais là, ce temps-ci, ça a pris des proportions un peu plus graves. J'en ai marre de tout, j'en ai marre de l'Église, donc quand je dis ça, je suis pasteur. Je suis fatiguée de tous nos efforts pour faire marcher le truc. Je ne comprends pas, l'Église, Dieu m'a toujours encouragée en disant « vous aurez toujours les pauvres avec vous ». Qu'est-ce que ça veut dire pauvre ? C'est pas simplement les pauvres au niveau des finances. Mais des fois, on est pauvre en esprit. On est pauvre en caractère. On est pauvre en savoir-être. Des fois, juste en savoir-vivre. Et ça, c'est la famille. Et un des rôles du principal du pasteur, c'est de faire que tout n'explose pas. Moi, je croyais que c'était pour que les gens aillent plus loin dans la présence de Dieu. Ben non. C'est souvent pour que la famille arrive à fonctionner ensemble. Et puis, quel est ton plan, Seigneur ? Quel est ton objectif ? On vit des temps un peu compliqués, vous êtes d'accord ? On ne sait pas où on va. La France vit un temps très intéressant, c'est que samedi après samedi, ça peut tout péter. Quand même. Moi, j'étais jeune pour mes 68, mais au moins, c'était franc et massif, on va dire. Là, c'est très étrange ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui prient en France et dans le monde pour nous aussi. Il y a énormément de gens qui prient. Et je pense que si c'est grave déjà, je trouve, mais si ça ne va pas plus loin, c'est que Dieu fait grâce et parce qu'il y a aussi des gens qui se tiennent à la brèche. Et je vous encourage à vous tenir à la brèche et continuer à prier. Et là, pour le coup, j'apprécie les réseaux sociaux puisqu'on peut vraiment communiquer et se coordonner. Donc il y a plusieurs actions comme ça, mais je vous encourage à persévérer. Donc on est dans un temps où je me dis, tout est compliqué, qu'est-ce qu'il faut, Seigneur ? Oups. Et là, la seule chose qui m'est venue, c'est, je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, tu vas me... avant qu'il y ait un désastre. Je veux voir la gloire de Dieu. Vous savez que la parole, elle parle beaucoup de la gloire de Dieu. Certains l'ont vu, et puis dans l'Ancien Testament, on disait, si tu vois la gloire de Dieu, t'es cramé. Donc on n'avait pas trop envie de voir la gloire de Dieu. Je raconte souvent ça, mais moi, quand j'étais jeune convertie, alors au siècle dernier, on n'avait pas des tas de bouquins incroyables, ni des tas de trucs sur Internet, tu cliques, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu, puis t'as 15 messages, tu choisis celui qui te ressemble le plus, et tu dis, ok, je vais suivre les machins, ça va aller. Donc on ne savait pas. Donc moi, je me suis dit, pour voir la gloire de Dieu, je vais jeûner. Deuxième problème, tu cliques pas sur Internet à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait pour jeûner ? Il n'y a pas des conseils incroyables. Le seul conseil qu'il y avait, une femme disait, « Oh, mais si tu jeûnes, tu n'auras pas faim si c'est de Dieu. » Alors celle-là, si je la retrouve. Bon, donc je n'ai jamais compris si tous mes jeûnes étaient de Dieu, du coup, parce que, voilà. Donc j'ai dit, je vais jeûner une semaine. Et puis donc je jeûne une semaine. Et moi, je croyais, parce que j'étais jeune convertie, que si tu jeûnes, quand même, Dieu est impressionné par ta spiritualité et qu'il va y avoir quand même une rencontre de gloire. Et les jours passés, il ne se passe rien. Donc moi, je suis allée au bureau des réclamations et j'ai dit, mais enfin, je veux voir ta gloire. Et là, je vous garantis, je ne croyais pas trop aux anges à l'époque, mais j'ai vu un truc qui ressemblait à un ange. Alors quand j'ai dit j'ai vu, c'est comme je dis aux enfants, je vois pas comme je te vois là avec mes yeux naturels, mais j'ai des yeux spirituels et c'est aussi réel que le naturel. Et j'ai expliqué hier, ne restez pas que dans le monde naturel, il faut voir ce qui se passe derrière. Donc on est livré avec les yeux dans le cœur. Quoi. Hein, Paul dira, je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés. Enfin, déjà au moins qu'ils soient ouverts. Donc je vois un ange et qui me dit, alors c'est pas je suis ton ange, non c'est à l'intérieur, et qui me dit, tu veux voir la gloire de Dieu ? Bah oui, ça fait 5-6 jours que je jeûne. Et il me dit, viens. Et donc, je monte un escalier. C'était vraiment, c'était fort comme vision. Et j'étais excitée, quoi. J'ai dit, waouh, enfin, il se passe quelque chose. Donc je monte. Et puis au fur et à mesure que j'ai monté cet escalier de lumière, je commençais à être pas bien. Et puis à un moment donné, j'arrête. Et puis l'ange me dit, bah viens, tu voulais venir. Je dis, mais je peux pas venir. Au fur et à mesure que je montais cet escalier, je réalisais que dans tout mon orgueil et dans mon imbécilité, je dis, moi, je veux voir la gloire de Dieu. Mais si on ne peut pas rencontrer la gloire de Dieu en dehors de Jésus. Et là, c'était moi, ça c'est le syndrome de Babylone. Donc, il y a quelque chose en moi qui s'est... Je suis vraiment tombée littéralement dans mon salon. Je me souviens très bien où c'était. Vous savez, même s'il y a 30 ans et plus, il y a des trucs qu'on s'en souvient vraiment. Je suis tombée là et j'ai dit, mais je ne peux pas rencontrer Dieu dans l'état dans lequel je suis. Et après... Quand j'entendais quelqu'un qui priait, « Seigneur, on veut voir ta gloire !» Mais non, ça, c'est une imbécilité, on ne peut pas faire ça. Disons que j'ai réalisé que la gloire, c'est la présence réelle de Dieu. Il nous appelle à vivre par la foi, mais il nous appelle aussi à vivre dans la réalité. Quand j'enseigne sur l'intimité, je dis, qu'est-ce que c'est que l'intimité ? L'intimité, c'est une relation réelle. Sinon, il n'y a pas d'intimité. Moi, si je dis que je suis intime avec quelqu'un, c'est qu'on a une vraie relation, en vrai, un vrai échange. Je peux parler avec Dieu. Comme je le disais, c'est déjà grave dans le monde quand tu arrives, tu dis, ben moi, j'ai rencontré Dieu. C'est ça. C'est l'histoire de la marmotte qui replie le chocolat pour ceux qui ont... Voilà. Et c'est pire quand vous dites, Dieu me parle. Et je lui parle. Là, tout de suite, on sent qu'ils ont envie d'appeler le SAMU psychiatrique. Mais c'est la réalité des enfants de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu. Il nous parle. On a tous besoin de retrouver cette merveille de la relation avec Dieu. Et c'est ce que Jésus enseigne au travers de tous ses enseignements dans les évangiles. Il parle à Dieu. Il voit Dieu. Et il dit, ben, faites comme moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'intimité, la gloire, c'est réel. Donc, une fois que j'ai compris ça, Dieu a dû me guérir de mon expérience spirituelle. Un jour, il y a quelqu'un qui a une parole de connaissance qui précisément racontait ce que j'avais vécu. On a prié pour moi et j'ai été guérie. Donc, ce qui fait que là, maintenant, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je crois que c'est une prière pour les temps qui sont là. Si nous ne voyons pas quelque chose de plus de la présence de Dieu, je crains pour les temps qui viennent que l'Église ne soit pas prête à affronter ce qui vient. Il y a un cycle de la présence de Dieu qui est fini. J'en ai la pleine conviction. Nous sommes dans un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, plein de voix sont discordantes. En tout cas au niveau de l'Église, je ne parle pas du monde. Alors là, c'est festival. Mais au niveau de l'Église, on dit il y a un réveil qui vient. Est-ce qu'il y en a qui croient ici qu'il y a un réveil qui vient ? 3, alléluia. Je redonne une chance. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'il y a un réveil qui vient ? Ah ! C'est le matin, je comprends. Et puis il y en a qui croient qu'il y a des tribulations qui viennent. Est-ce qu'il y en a qui croient ça ? Voilà. Et donc, vous savez qu'il y a des jeux à la télé. Pour tribulation, tapez 1. Pour la gloire, tapez 2. Et pour, je ne sais pas, tapez 3. Et je crois qu'on n'a pas à choisir, la parole est très claire, les deux viennent en même temps. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ou que ce soit autre chose, je ne sais, ou un mix de tout ça sûrement d'ailleurs, il faut que nous soyons préparés. Comment est-ce qu'on se prépare à des choses qui vont nous sortir de nos cadres, sortir de nos habitudes, sortir de notre confort ? Moi je suis une génération qui n'a pas connu de guerre sur son territoire. Et je bénis le Seigneur. Je n'ai pas connu ces choses-là. Mais je vois les dégâts que ça a pu créer dans la génération de mes parents, de mes grands-parents, et etc. On n'est absolument pas préparé. Parce que tu crois qu'il y aura une guerre ? Mais oui. Peut-être pas comme celle on a l'habitude, mais il y a des choses graves qui se préparent. Il faut regarder. Et nous, on est l'Église. Et comment on se prépare à ça ? Moi, c'est la question que je me pose. Et si j'avais toutes les réponses, ça se saurait. Mais je me pose des questions, comment on se prépare à ce qui vient? Et comme je le partageais hier, Dieu m'a dit, prépare-toi à ce que tu ne sais pas. Donc je ne sais pas, et la seule réponse que Dieu m'a dit, il faut que tu passes de l'autre côté du voile et que tu réapprennes tout. Quand je dis de l'autre côté du voile, c'est, vous savez que quand Jésus est mort à la croix, il s'est passé un truc bizarre, c'est que quand il est mort, au moment où il a expiré et qu'il a dit, en fait, quand tout est accompli, dans le temple, il y avait un grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et vous savez que dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche. Enfin, à cette époque-là, elle n'y était plus. Mais c'était là où elle était censée être. C'est-à-dire la présence, la gloire de Dieu visible. Personne ne pouvait y rentrer. Seulement une fois par an, le souverain sacrificateur. Et ce jour, le jour où Jésus meurt, le voile est déchiré. Ça veut dire que ce que Dieu avait dit, l'homme n'aura plus accès à ma présence, ce qu'il avait dit au jardin d'Éden, c'est fini. En Jésus-Christ, maintenant, nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Et la souffrance du Seigneur, c'est de dire qu'il nous attend de l'autre côté, et nous, on lui dit, viens vers nous. Je parle des croyants, hein, je ne parle pas du monde. Et on dit, Seigneur, on te loue pour la croix, le sacrifice que tu as fait, la mort, la résurrection. Et Dieu nous dit, venez, venez. Et si on est honnête, comment on fait? Comment c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors de temps en temps, on a une visitation. On a trois gouttes d'eau qui tombent sur notre terre, trois gouttes de gloire. Et waouh! Mais on a besoin d'apprendre à changer de style de vie et d'apprendre à passer de l'autre côté. Donc ce que je suis en train d'essayer de vivre, avec plus ou moins de réussite selon les jours, mais je ne veux pas lâcher ça. Je veux rencontrer Dieu d'une nouvelle façon, parce qu'il y a une nouvelle saison. Et je sais que notre communauté, donc on a un centre, et dans ce centre, ben, il y a une église, comme ici, qui je pense est à peu près la même taille que vous êtes autour de 250, qui fait ce qu'il peut pour rester une famille. Et puis à côté, on a une épicerie sociale et solidaire, parce que Dieu nous a mis à cœur les pauvres. Et puis on a une maison de prière, et pour nous, c'est le cœur du centre. Je me suis dit, dans les temps qui viennent, s'il n'y a pas la prière, on va tous crever. Parce que, qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Un changement de saison, un changement de stratégie. Alors je sais que dans le monde chrétien, il y a plein de stratégies incroyables. Et que si vous faites certains process, ça marche. C'est-à-dire que vous avez du succès, vous avez du monde. Les gens viennent dans votre église parce qu'il y a une bonne louange, parce que vous savez faire ce qu'il faut, vous savez bien accueillir. C'est pas mon truc, ça. Qu'est-ce que toi, tu veux pour chacune des communautés? Ne cherchons pas ce qui marche ailleurs. Mais qu'est-ce que tu cherches pour notre communauté? Une communauté, c'est comme un enfant. Il est unique. Donc moi, j'ai eu qu'une fille, j'ai pas trop d'expérience, mais j'ai eu des enfants spirituels. Les principes que vous mettez en place pour un ne marchent pas du tout pour l'autre. Et c'est pas la peine d'aller chercher ce qui marche chez quelqu'un et essayer de le coller pour vous. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit pour affronter cette nouvelle saison? Nous, on a essayé quand on était jeunes, c'était l'époque Yonggi Cho. Vous vous souvenez? Eh bien, on a découvert que nous n'étions pas coréens. Parce que ce qui marche en Corée, pour les Français, oh là là, c'est une catastrophe. Et puis, il y a eu les méthodes de machin, machin. À la fin, je dis, on n'en peut plus des méthodes. Qu'est-ce que toi, tu nous dis? Eh bien, les Français, c'est un peu différent, on va dire. Et puis aujourd'hui, quand on dit français, on est un peu français, beaucoup français. Des fois, je m'amuse, on aime beaucoup les nations dans notre communauté. On a 50 nations. Et de dire, qui est français en vrai dans cette salle? En fait, pas tant que ça. Dieu a permis que les nations soient mixées. Alors, il y en a qui trouvent que c'est une catastrophe, mais c'est magnifique. C'est une image d'Apocalypse 5. Devant le trône, il y a un peuple de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et quand on accepte d'être de toute nation, on a une autorité et une puissance. Quand on accepte aussi que des juifs messianiques soient au milieu de nous, alors c'est une manifestation de l'homme nouveau. Ça, c'est encore une parenthèse. Donc Dieu nous appelle vraiment dans du nouveau. Il faut accueillir la famille que nous formons avec le cœur de Dieu. Et pendant ce temps, ce que Dieu me disait, c'est qu'il vous aime. Oh, c'est sa prophétie. Elle est... Il y a tellement de gens qui viennent nous voir en disant « Ouais, votre église, là, 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 là. » Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Ben, que Dieu aime votre communauté. Quand il vient, il est touché par l'histoire, par la persévérance, par le fait qu'il y en a qui ont tenu contre vent et marée. Il y a des jeunes qui sont là, qui se disent « Mais il les aime. Il aime la famille. » Il y en a qui sont en feu, il y en a qui sont en train de mourir. C'est une famille, en vrai. Il y en a qui pètent la forme, et d'autres pas du tout pas. Mais Dieu aime tout ça. Et en même temps, il a envie de mettre au milieu de vous une autre parole. Peut-être qu'il l'a déjà mise, hein, moi je ne sais pas. Et en priant pour vous aussi, je voyais qu'il voulait mettre dans ce lieu vraiment un feu. Alors c'est intéressant parce que vous êtes un peu sur les hauteurs, on se dit le feu ici, ça, c'est pas un bon plan, mais il a vraiment envie de mettre un feu. Alors vous savez que le feu, c'est une image de la présence du Saint-Esprit, et puis c'est quelque chose qui est vu. Souvent, on nous dit qu'une ville, quand elle est mise en hauteur, alors elle éclaire. Et le feu, il est là pour éclairer, mais il est là aussi pour donner de la chaleur. Et il y a besoin des deux. Et je crois que dans les temps où nous sommes, les gens ont de plus en plus de difficultés, sont en souffrance, sont en besoin. Et l'Église doit être une réponse. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas une réponse. Il faut être honnête. Mais Dieu et la gloire de Dieu en nous et au milieu de nous est une réponse. Il faut que nous acceptions, et ça c'est un vrai défi pour la France, de sortir de notre individualisme comme réponse. Ce qui touche les gens, c'est une famille. Je le redis, ce qui touche les gens, c'est une famille. Chacun d'entre nous, on a son mandat, mais ce qui va toucher, c'est le fait qu'il y ait une famille qui accepte et qui de vivre ensemble avec tous les défis. Ce qui dit une famille, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes et des vieux. Je sais qu'on a toujours eu ce chant « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». En général, c'est la tête des jeunes qui est moins... voilà. Mais c'est un défi, les générations ensemble. Et si nous acceptons de payer le prix de ce défi, mais les gens dehors, ils crèvent. Parce que nos familles sont de plus en plus graves et dysfonctionnelles. Donc, être un feu, c'est être une famille. En acceptant toutes les générations. Ça nous demande de faire un effort. Hein, comme je le disais hier, quand moi j'ai donné ma vie au Jésus, mon premier choc, c'était quand même la musique. Je ne savais pas de quel siècle ça venait, mais pas du mien. Et puis j'en passe. Il y a aussi les relations hommes-femmes. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rentrée au Moyen-Âge dans ma communauté. Je ne savais pas qu'être femme, c'était un handicap. Je ne savais pas que Dieu aimait moins les femmes, qu'il leur faisait moins confiance. Je vous cherche un peu. Hein. Alors Fabienne pense, pof, on la ravit depuis. Hein. Les nations, moi j'aime les nations, je vais dans les nations. Mais en vrai, ça veut dire qu'il faut accueillir les nations. Mais on ne peut pas les laisser sur des strapontins. Il faut donner des responsabilités aux gens des nations. Il y a une richesse dans chaque nation. Et c'est un défi. Parce que si vous allez dans les nations, mais ça ne fonctionne pas du tout comme nous. Moi, je vais souvent en Afrique, donc ça m'aide quand je suis en France, parce que des fois, quand on est en réunion avec des responsables africains, je dis, ouh, là, on a mis la disquette, nous sommes en Afrique. Donc, on ne va pas discuter comme des Français, on va faire autrement. Vous comprenez ? Mais c'est magnifique. C'est plein de défis, c'est magnifique. Et comment on va y arriver ? C'est Dieu qui doit le faire. Beaucoup de gens disent l'unité, l'unité, l'unité. Jésus a réglé le problème de l'unité dans Jean 17. Il a prié. Donc quand Jésus prie, normalement, quand nous on prie, on se dit... Mais quand Jésus prie, normalement on a des chances que ça soit exaucé. Donc c'est une des prières pour lesquelles, je crois, il y a eu de l'exaucement. Et nous sommes au bénéfice de ça. Et il nous dit, je prie pour que le monde voit que vous soyez un. Et il explique, je paraphrase parce que je ne vais pas prendre tout le texte de Jean 17, pour que vous soyez un, je vous explique, vous serez un comme nous, nous sommes un dans la gloire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'œcuménisme, on ne parle pas de grandes rencontres incroyables entre nous pour dire nous avons fait des grandes rencontres, nous sommes nombreux, nous sommes unis. Nous ne pouvons être unis, c'est Jésus qui le dit, que si nous sommes comme le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Mais personne ne sait faire ça. Et là où je suis, dit Jésus, je vous amènerai. Ça veut dire que la gloire, la présence réelle de Dieu crée l'unité. Et très simplement, moi j'ai toujours cru que passer du temps dans l'adoration, dans la profondeur de la présence de Dieu, nous faisait nous aimer. Il n'y a pas de verticalité sans horizontalité. Quand nous avons aimé le Seigneur, alors nous sommes remplis d'amour pour les autres. Alors il faut en profiter. C'est pour ça qu'il faut prendre des temps dans la présence de Dieu, dans l'intercession, nous avons servi le Seigneur. Et je crois que le feu que Dieu est en train de vouloir mettre ici, c'est qu'il y a une famille qui cherche sa face, qui accepte que des barrières tombent, que des habitudes tombent, parce que c'est ça que les gens autour ont besoin, parce qu'ils sont tous avec un esprit d'orphelin et perdu. Pour y arriver, il y a besoin de guérison et de délivrance. Amen. Donc moi je suis en train de travailler ça dans notre communauté et c'est marrant, dès qu'on commence à mettre ça en programme, tout de suite ça pète. C'est Dieu entendu mais l'autre aussi. Donc c'est compliqué. Tout de suite il y a des rancœurs, des difficultés, ça bouge. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de travailler nos vies. Est-ce que vous avez tous eu des familles merveilleuses? Il y en a qui ça va à peu près. Alors les enfants de chrétiens en général sont très ennuyés avec ça. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Et puis il y a ceux qui venaient venaient du monde. Alors voilà. Donc eux ils avaient une vue pourrie et ils avaient donné leur vie à Jésus. C'était radical, etc. Ils aimaient le Seigneur. Et puis voilà, avant, après. Et puis les enfants de chrétiens, dis-nous, on n'a pas de témoignage. C'est nul. Et puis c'est en fait le parent, c'est le Dieu de nos parents. Et puis on a du mal. Mais il y a besoin qu'un travail se fait aussi avec les jeunes de nos églises pour qu'il y ait une vraie rencontre. Et pour eux, c'était difficile de se dire notre famille était dysfonctionnelle. Surtout quand ils étaient enfants de leaders. C'est vrai ? Est-ce que parce que vous êtes leader, je ne regarde absolument personne, est-ce que votre famille a été magnifique? Pas toujours. Moi, j'ai toujours enseigné de dire chaque famille fait ce qu'elle peut. Mais quand on a vécu soi-même des graves dysfonctionnements, on a des grandes chances d'en reproduire quelques-uns. Voilà, donc j'ai averti ma fille, et effectivement, ma fille a eu besoin d'aide. Et un jour, elle m'a dit, maman, il faut qu'on parle. J'ai mal dormi après. Mais elle avait raison, parce qu'il y avait des choses qui étaient dysfonctionnelles. Donc, ça, c'est dans le monde chrétien, mais nous venons aussi de familles qui sont catastrophiques. Moi, ma famille n'est pas très fonctionnelle. Je les aime beaucoup, mais ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, quand Dieu dit, je cherche une famille, pour certains, ça pique. Mais il faut guérir. Il faut guérir. Et se dire, dans le Seigneur, il y a une espérance d'une autre famille. Et si on n'accepte pas ça, alors quand les temps vont être très difficiles, où vous allez aller? Fédération protestante de France? Au CNEF? À l'église du coin? Vous allez aller vers la famille. Vous en fichez quelle étiquette ça peut avoir. Vous allez aller avec les gens que vous aimez. Donc il faut qu'on apprenne à s'aimer dans les temps qui viennent. Et on ne peut pas s'aimer s'il n'y a pas la gloire de Dieu. Alors nous avons vraiment de façon forte besoin de chercher le Seigneur, mais d'être purifiés et guéris des choses anciennes. Tout le monde est blessé et tout le monde a besoin de guérison et de délivrance. Et je voyais je vous le dis très humblement, après vous en faites ce que vous voulez, mais pour ce lieu qui avait besoin de délivrance, besoin de délivrance par rapport aux gens et par rapport au lieu, à cause de la ville aussi. Il y a sûrement deux, trois trucs qui empêchent d'avoir une pleine liberté. Des fois, on se bat, on s'use, mais parce que l'ennemi a des droits. Et après, une fois que ça a pété, on est beaucoup plus libre. Ça va ce que je dis ? Ça, c'est pas traumatique ? C'est pas jugeant, vous comprenez ? C'est parce que Dieu nous aime et il dit « parce que je vous aime, je veux vous avoir à moi et je veux pas que l'ennemi ait des droits sur vous. » Et des droits, il y a encore des fois deux, trois trucs à faire. Et puis dans ces temps qui viennent, Dieu prépare une nouvelle catégorie de croyants, pas simplement des gentils chrétiens, qui ont un gentil témoignage et qui sont gentils et qui témoignent. Il y a une nouvelle catégorie qu'il veut mettre au milieu de nous. Et je veux finir avec ce... Je ne sais pas combien, jusqu'à combien d'heures j'ai en fait. Je n'ai pas regardé. Oh, ça va, vous êtes réveillés, vous avez besoin de faire quelque chose, non ? Vous connaissez bien le passage de Joël. Alors, Joël, c'est mystérieux. Personne n'a jamais les mêmes références. Donc, moi, c'est Joël 4. Pour certains, ce sera Joël 3. Je ne pense pas quand même qu'il va y avoir Joël 15. Mais... Donc, moi, c'est Joël 4, verset 9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Changement de saison. Si parmi vous et parmi nous, quand je dis vous, c'est toute l'Église en France et dans les nations, ne se prépare pas à la guerre, alors nous ne sommes pas préparés pour les temps qui viennent. Et Joël prophétise, préparez la guerre, réveillez les héros. Un héros, c'est quoi ? C'est quelqu'un de normal qui est confronté à une situation anormale et là, on n'est pas égaux. Dans un danger, il y en a qui se disent « courage, fuyons » et d'autres qui se lèvent et qui y vont. On n'a pas les mêmes caractères, mais dans le monde spirituel, Dieu veut nous préparer dans sa gloire à être tous des héros. Qu'il s'approche, qu'il monte tous les hommes de guerre. De vos socs, forgez des épées et de vos serpes, des lances. Et que le faible dise, je suis vaillant, dépêchez-vous et venez. Donc ça veut dire que il y a un changement de saison, de cycle, où certains parmi nous avaient des socs et des serpes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient dans les activités professionnelles, peut-être spirituelles, qui correspondaient à la saison dans laquelle ils sont. Et Dieu dit, maintenant, ce que vous faisiez, ça va tellement changer que vos instruments, votre équipement que vous aviez jusqu'à présent va être complètement transformé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'agriculture, au lieu de faire tout un tas de choses qui étaient normales pour cette saison-là, vous allez devoir de cet équipement en faire quelque chose d'autre, c'est des épées. À quoi ça sert des épées ? Voilà. Et puis, les serpes, c'est pareil, ça sert à faire des lances. Soit nous acceptons qu'il y a un vrai changement qui vient, nous renonçons à notre confort, à nos habitudes, et nous écoutons ce que Dieu nous dit, et nous disons, il faut qu'on se keep autrement, on se prépare autrement à ce qui vient. Et là, c'est radical. Ce que je faisais avant va changer dans autre chose parce qu'il y a une guerre qui vient. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est les épées et les lances ? Évidemment, on ne va pas aller se battre en vrai, quoique je ne sais pas très bien, mais ça me parle de la prière. Ça parle de la prière. Quelles sont les armes que nous avons aujourd'hui ? Les armes puissantes que Dieu nous a données, c'est vraiment la prière. Ok ? Qu'est-ce qu'on prie en vrai ? Dans le temps de confrontation que nous vivons en France, je suis un peu catastrophée de voir comment nous prions peu, comment nous sommes endormis, nous sommes anesthésiés. Il y a un système qui a été mis en place dans le monde pour nous anesthésier. On regarde les infos en boucle ou pas, Déjà, les infos nous racontent n'importe quoi, mais on est passif. Normalement, nos églises devraient se remplir et on devrait venir dire, on va faire une réunion de prière. Nous sommes une église qui ne prie pas plus que les autres. Mais j'ai une équipe qui est vraiment passionnée par le service de la présence de Dieu. Il y a des gens en France qui prient. On a mis en place une page Facebook qui s'appelle France Prière, s'il y en a que ça intéresse, où on met... Il y en a qui connaissent ça, ici ? Merci. Donc, aucune prétention, on met juste des alertes de prière. On dit, mais priez, ne vous relâchez pas. Et on essaie de proposer d'autres programmes de prière. Il y a des milliers de personnes qui nous ont rejoints. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est peu, peu par rapport aux besoins qu'il y a. Le destin d'une nation bascule dans la prière. Et quand je dis ça, ouais, on le sait. Le savoir ne change pas une nation. Le savoir ne change pas une vie. C'est le faire, de nous mettre en pratique. Donc comment est-ce qu'on va changer notre style de vie pour être une famille qui est une famille guerrière, amoureuse et qui prie? Et ça, c'est le défi que je me lance, que je nous lance. Mon cœur, il est saisi par ce qui se passe pour le pays. J'aime ma nation. J'aime les gens dans cette nation. Et mon cri, Seigneur, est-ce que nous avons encore du temps? C'est une vraie question d'intercesseur. Et je crois, et j'espère que si des gens prient, Dieu va nous laisser plus de temps. Plus de temps pour quoi faire? Pour prier, pour nous préparer, qu'il y ait plus de gens qui soient sauvés, qu'il y ait des solutions, que les églises sortent de leur confort et reçoivent des stratégies. Parce que qui dit difficulté, dire qu'il y a des crises économiques qui viennent. Quelle est notre réponse pour une crise économique? Des choses que nous faisions, ça ne marchera plus. Je me souviens en 2008, je raconte ça souvent, Dieu m'a parlé clairement, il va y avoir une crise économique. Et souvent quand on est prophétique, on se dit, voilà, j'annonce. Enfin, bon, c'est un peu d'effet de manche, mais il va y avoir une crise économique et puis voilà. Mais quand on est prophétique, on n'a fait qu'un quart du boulot. S'il y a une crise économique, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et Dieu nous a donné une stratégie à notre petit niveau. Parce que des fois, on pense la France, mais Dieu nous a donné un mandat local. Donc, dans notre petit niveau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et nous, on avait une espèce de banque alimentaire, on faisait des colis, comme beaucoup d'églises. Et il nous a semblé que Dieu disait, je veux changer ça. Et je voudrais que vous fassiez une épicerie, il nous a fait des explications, et ça va aider les pauvres. Et nous sommes dans un quartier qui est difficile, à côté du Mirail. Des fois, ce quartier est connu, dommage, pas bien. Et vous allez aider les gens pauvres, mais en même temps, ce que vous allez mettre en place va aider aussi les chrétiens en difficulté et va créer de la solidarité et des finances pour aider le royaume de Dieu. Donc c'est un nouveau système économique. Et pour ça, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui bosse. Et on avait la bonne personne. Et on a dit, ben, on t'embauche. Tu vas être pasteur de ce truc-là. Et on l'a embauché, on n'avait pas d'argent. Et comme c'était une vision de Dieu, Dieu a pourvu. Donc ça, c'était en 2008. Mais dans les temps qui viennent, et c'était pour nous. Maintenant, pour chaque lieu, si vous êtes une ville qui est située en hauteur et qui brille et qui est un feu, et que vous êtes une famille pour accueillir les gens dans le besoin, un lieu de ressources, qu'est-ce que Dieu vous demande? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je n'en sais rien. Mais je vois que Jésus vraiment était là, était plein d'amour pour chacun d'entre vous, et qu'il me semblait qu'il disait, je les ai préparés. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que certains oui, mais je vous ai préparés pour les temps qui viennent. Et après, c'est à nous de choisir. De sortir de nos cadres, de nos conforts. L'église du dimanche matin, c'est cool, mais ça va être bientôt fini. Il attend que chacun de ses enfants accepte de passer de l'autre côté du voile et réapprenne des choses de base. Actuellement, je réapprends des choses que je croyais savoir, mais que je ne sais pas. Il faut de l'humilité pour se dire, je reviens à la maternelle, réapprends-moi, Seigneur, réapprends-moi. Mais je veux réapprendre dans ta présence, dans ta gloire. J'ai besoin du monde surnaturel pour vivre ces temps. Il y a une activité angélique incroyable sur la France actuellement. Tous les gens prophétiques voient des anges en action, parce qu'il faut qu'on travaille avec. Et si plus vous allez prier, plus vous allez voir le monde spirituel devenir naturel et visible, et découvrir comment ça fonctionne de mieux en mieux, pour ne pas prier n'importe comment. Parce que des fois, on prie comme on peut. Hein. Mais d'avoir des prières qui sont efficaces. Moi, je sais que je peux dire des choses qui sont simples, quand c'est Dieu qui me dit de les dire, je sais que ça a une puissance. Mais pas parce que c'est moi, c'est parce que je me suis alignée avec ce que Dieu me disait. Et je fais très attention de ne pas avoir de présomption. Pour vous finir ça, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Watchmen for the Nations, et on a été il y a quelques mois en Égypte, dans un endroit qui est Aswan, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un lieu gratiné au niveau spirituel, c'est dans le haut du panier, et donc on est allé célébrer le Seigneur en face des dieux, on va dire ça comme ça. Et c'était d'un lourd, j'étais qu'avec des leaders de toutes les nations, des grands guerriers. On était 100 qui savent. Et on a ramé, il n'y avait rien qui se passait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du combat. Et des fois, on a de la bonne volonté, vous savez, on dit on va commencer à prier, on va louer le Seigneur, il y a une espèce de fatigue qui vous tombe dessus, des pensées qui partent dans tous les sens. Mais c'est le combat. Apprenons au moins à se dire, c'est le combat. Alors le leader nous a dit, réveillez-vous. Et c'est tous des pasteurs, des leaders, de grands réseaux, il y avait des Chinois qui sont là, qui ont des milliers d'églises, ils n'étaient pas plus frais que nous. Et puis à un moment donné, Dieu nous a dit, on va fêter un anniversaire. Donc on a passé une demi-heure à fêter, une journée à prêter un anniversaire, on s'est dit qu'on s'aimait dans toutes les langues, on s'est fait des bisous, on s'est fait des câlins, on a fait joyeux anniversaire. J'ai dit, purée, j'ai dépensé de l'argent et du temps pour faire ça pendant une journée. Mais c'était du combat spirituel qu'on a fait. Et puis à un moment donné, quelqu'un a eu une vision et a dit, ben, les dieux sont dégoûtés, ils se sont cassés. Parce que quand on commence à les confronter, ils attaquent. Mais quand on s'aime et qu'on est comme des gosses, ils ne savent pas très bien. Et là, on a commencé à combattre, pas les attaquer. C'est quand c'est trop, ça, il ne faut pas faire. Mais nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On a déclaré le Seigneur, on a loué, on a déclaré la puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que, est-ce que nous sommes prêts à changer nos stratégies, nos façons de faire ? Est-ce que nous sommes prêts à confronter l'ennemi ? C'est ça le changement de vie. Depuis 2 ans et demi, je risque ma vie. En vrai. Allô ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que le combat spirituel et les choses dans lesquelles je suis impliquée, c'est réel. Dans mon bureau, j'ai des effets spéciaux réels. Sur mon corps aussi. Je suis sortie du monde des bisounours. Parce que les chrétiens, c'est Alléluia, Dieu est avec nous. Amen. Mais nous sommes dans une vraie guerre. Et si on ne se réveille pas, on ne la verra même pas. Voilà, c'est le gentil message que je suis venue vous apporter. Est-ce que je peux prier ? Est-ce qu'il y en a qui demanderaient la prière ? Dire que Dieu nous aime, et c'est pour ça qu'il veut nous prévenir. Mais à un moment donné, si on ne sort pas de nos habitudes, si on n'a pas un vrai temps de repentance et un réalignement avec Dieu, si on ne laisse pas guérir nos blessures, nos échecs, nos fatigues, si on ne cherche pas la gloire de Dieu, s'il ne nous réveille pas, j'ai peur. Vous êtes un lieu stratégique pour Nîmes. C'est clair pour moi. C'est clair que Dieu vous a préparé pour ces temps qui viennent. Et c'est comme Esther. Mardoché lui a dit, tu as été préparé pour des temps comme ça. Alors lève-toi. Et vous avez été, chacun d'entre vous, ce lieu a été préparé. Pour ce qui était avant, c'était des répétitions. On se dit, bon, c'était long les répétitions. Mais pour des temps qui viennent comme ça, est-ce que vous le sentez ? Quelque chose qui est en train de basculer. Et si vous ne le sentez pas, revenez devant le Seigneur pour qu'il vous le dise. Alors ceux qui le souhaitent, je voudrais prier pour vous, afin qu'il y ait un esprit de réveil qui vienne, tout simplement. Pouvez-vous lever ? Vraiment dire que je vous aime et que j'ai dit ces choses, c'est parce que je vois l'amour de Dieu, l'amour du Fils en vous et au milieu de vous. Je vois l'attente de Jésus, le désir de Jésus qui vous dit « mais suivez-moi, sortez de ce lieu et suivez-moi ». C'est comme si vous deviez vraiment sortir de cet endroit et suivre le Seigneur dans sa présence. Et Dieu aimerait tellement que tout le monde le fasse. On ne rêve pas, mais si vous êtes une famille, que ceux qui commencent à être réveillés, attendez les autres, parlez aux autres, priez pour les autres, pour que la famille y aille. Ce n'est pas juste 2-3 personnes, c'est une famille qui passe de l'autre côté du voile. Et si le feu vient, l'amour de Dieu vient, il y aura Dieu va pourvoir. Alors je veux prier, Seigneur, que dans ce lieu, la puissance de ton esprit vienne. Que ce qui doit être bousculé soit bousculé. Que ce qui doit être changé soit changé. Mais que ton amour soit libéré, que la passion pour toi soit libérée, que la gloire de Dieu vienne toucher, Seigneur, que ce que nous n'avions pas vu, ce que nous n'avions pas encore compris, tu viennes nous l'expliquer, que tous les équipements, tous les dons que tu as donnés jusqu'à présent, tu aies la liberté de les changer dans des armes nouvelles. Je veux prier, Seigneur, pour la place de la prière. Réveille un peuple à la prière dans ce lieu. Réveille un peuple à l'intimité. Ce n'est pas des messages. C'est Dieu qui vient bousculer nos cœurs, qui nous fait que nous sommes malades si nous ne sommes pas avec lui, que nous sommes en manque. Je prie que l'esprit de prière soit réveillé dans ce lieu, que l'esprit d'adoration, de haute louange, d'intercession, de combat, les esprits d'enfantement, que nous puissions maintenant laisser à terre toutes les paroles qui ont été dites en disant « il ne faut pas, vous n'avez pas le droit », qu'il y ait une liberté du Saint-Esprit pour rentrer. Et ne nous attendons pas à ce que de l'autre côté du voile, ce soit comme de l'autre côté. En Dieu, tout est différent, tout est kadosh, tout est tout autre. Acceptons le kadosh. Acceptons son amour. Acceptons qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il va nous attirer plus près de lui. Acceptons que parce qu'il nous aime, il va nous équiper autrement pour aimer ceux qui ont tellement besoin d'être aimés autour de nous. Je veux prier que chacun de tous ceux qui sont là, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe dans leur vie à partir d'aujourd'hui. Merci pour tes anges qui sont dans ce lieu. Ce que je vois de particulier ici, c'est qu'il vient toucher le dessus de votre tête, qu'il y ait une huile d'onction qui vienne sur vos pensées. 2 Corinthiens 10, c'est que les armes que Dieu nous a données, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour combattre les hauteurs, les raisonnements, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et plusieurs parmi vous ont des hauteurs. Et quand je dis ça, c'est avec plein d'amour. J'en ai tellement encore dans ma vie. Il y a des hauteurs, des forteresses, des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, ce n'est pas un savoir, c'est une rencontre. Je connais le Dieu vivant. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est rentrer dans la réalité de la vie éternelle. C'est rentrer dans une foi qui est vivante. C'est rentrer dans une dimension de son amour que nous ne connaissions pas. Et pour ça, nous choisissons d'abaisser les raisonnements, toutes les hauteurs religieuses qui nous empêchent de le connaître et d'être comme des petits enfants. Dieu est en train de chercher les petits-enfants en vous qui ont une foi simple, qui ne discutent pas et qui sont prêts à être pris par la main et d'y aller ensemble et de s'asseoir aux pieds de Jésus et qui nous racontent comment c'est, comment ça marche. Merci pour l'émerveillement que tu recrées dans ce lieu, Seigneur. Amen.